Aujourd'hui, on va essayer d'apprendre, Rav Hachem, les halakhot qui concernent le Yovel. Qu'est-ce que c'est la mitzvah du Yovel? Quelles sont les halakhot qui concernent le Yovel? Et on va essayer d'expliquer aussi la logique, le fond de cette mitzvah, comme on le retrouve dans les Mefarshim. Alors, en ce qui concerne la halakhot, on va le retrouver dans le Rambam, dans Ilchot Shmita ve Yovel, dans le 10e Perek. Ça se trouve dans la partie de Zraïm, la partie Zraïm dans le Rambam. Là-bas, le Rambam va nous ramener la halakhot. Et bien sûr, c'est des psukim qui se trouvent dans Parashat Be'ar, dans le Sefer Ve'ikra, Perek Aleph. On va retrouver donc plusieurs halakhot. Premièrement, qu'est-ce que c'est la mitzvah du Yovel? Le Yovel, c'est en fait un décompte qu'on va faire, un décompte de 50 années, et toutes les 50 années, on va se remettre à recompter. Qu'est-ce que c'est ces 50 années? Il y a une mitzvah spéciale qui est reposée sur le Bedin, sur le grand Sanhedrin qui se retrouvait à Yerushalayim. Et le Bedin, ils ont une mitzvah de compter chaque année. Donc, le soir de Rosh Hashanah, ils vont se mettre à compter. Aujourd'hui, cette année, on est la première année du Yovel, la deuxième année du Yovel, la troisième, la quatrième, jusqu'à ce qu'ils vont arriver, en fait, à la septième année. Et le Yovel, il fait référence à deux comptes. Il y a le compte des 50 années, et il y a le compte de 7 Shmitot. Donc, la Shmita, c'est toutes les sept années. Donc, exactement comme on le retrouve, en fait, dans le Sfirat HaOmer, qu'il y a le compte des journées, des jours. On va compter 49 jours et on va compter 7 semaines. Donc, quand on va arriver à la première semaine, on va dire aujourd'hui on est 7 jours qui font une semaine. La même chose avec la Shemitah. Ils vont compter, nous sommes la première année de la Shemitah, la première année du Yovel, pardon, et la deuxième année du Yovel, jusqu'à qu'ils arrivent à la septième année du Yovel qui font une Shemitah. Et ensuite, ils vont continuer à compter la huitième année du Yovel, la neuvième année du Yovel, jusqu'à la quatorzième année du Yovel qui font deux Shemitot. Et comme ça, ils vont arriver à 7 fois 7, donc 7 années de Shemitot fois 7 Shemitot, ils vont arriver à la 49e année. Ça va nous ramener, l'année numéro 49 sera encore une Shemitah, et l'année numéro 50 sera le Yovel. Donc c'est comme ça qu'ils faisaient le décompte. Et le Rambam va nous expliquer au courant des générations comment ils l'ont fait. Alors, ils ont commencé à compter les années du Yovel 14 ans après qu'ils sont rentrés en Eretz Israël. Donc il y avait les années de l'héritage des guerres et de qu'ils ont convaincu en fait la Eretz Israël. Donc quand ils ont fini de convaincre Eretz Israël et chacun s'est installé chez lui, ils ont commencé à faire le décompte du Yovel. Ça a tenu comme ça pendant 850 ans jusqu'à la destruction du premier Beth Amikdash et ils ont réussi à compter 17 fois le Yovel. 17 Yovel, ça nous ramène à 850 ans. Jusqu'à le premier Khorban de Temekdash, et le Khorban, il était à la 36e année du Yovel numéro 18. Ensuite, quand le Khorban Beth Amikdash a été détruit, le décompte des Shemitot est resté. Bon, la Shemitah, elle reste, comme on le sait, elle est indépendante du Beth Amikdash, elle reste jusqu'à aujourd'hui. Et donc, le compte des Shemitot, il a continué. Par contre, le compte du Yovel s'est arrêté. Ensuite, quand ils sont revenus au deuxième Beth Amikdash, 7 ans après qu'ils sont revenus, Ezra a offert, il a rétabli toute l'organisation du clan Israël en Israël, et il a recommencé à faire le décompte du Yovel, et en même temps avec la Shemitah. Donc, à ce moment-là, ils ont recommencé à compter le Yovel. Par contre, il faut savoir que la mitzvah elle-même du Yovel, mis à part le décompte du Yovel, il y a une autre mitzvah qu'on va voir tout de suite, c'est de rendre Kadosh la 50e année, qui sera comme une année de Shemitah. Donc on aura deux années de Shemitah consécutives, l'année de la Shemitah qui est la 49e année, et l'année d'après qui est le Yovel. Pendant 2 ans, on ne va pas toucher la terre, on ne va pas labourer, on ne va pas semer, on ne va rien faire. Et c'est ça en fait la mitzvah de sanctifier le Yovel. Et donc, à partir de la destruction du premier Beth Amikdash, puisqu'il n'y avait pas tout le peuple d'Israël sur la terre d'Israël, la majorité ne sont pas revenus au courant du deuxième Beth Amikdash, parce qu'il y avait déjà les 10 Shvatim qui se sont dispersés complètement. Et donc, il n'y avait pas la mitzvah du Yovel. Par contre, le compte du Yovel, c'est quelque chose d'intéressant et un peu bizarre. Le compte du Yovel, il est revenu. Peut-être parce qu'ils avaient quand même une espérance que les 10 Shvatim reviennent et qu'on puisse faire la mitzvah du Yovel. Mais quoi qu'il en soit, donc, ils ont refait le décompte. Et puis ensuite, à la destruction du deuxième Beth Amikdash, ils ont encore une fois arrêté de compter les années du Yovel et ils ont continué les Shemitot. Donc, en fait, si on veut résumer, les Shemitot, on a commencé à les compter depuis pratiquement l'entrée des Bnei Israël en Israël. Jusqu'à aujourd'hui, il y a le compte des Shemitot. Par contre, il faut faire attention, ça n'a pas été, c'est pas un compte qui a été consécutif jusqu'à aujourd'hui, parce que pendant certaines de ces années, du temps du premier Beth Amikdash et du deuxième d'ailleurs aussi, il y avait un compte qui était à part, qui était le compte du Yovel, et donc ça peut changer le compte des Shemitot. Ça change en fait les décomptes, parce que la halakha sera comme Chachamim, que l'année du Yovel est une année à part l'année de la Shemitah, c'est pas la 49e année, c'est la 50e, et donc le temps, les périodes où il y avait le Yovel, en fait, ce qui se passait, c'est que toutes les années de Shemitah bougent d'un cran, parce qu'il y a la 49, après on doit compter la 50e pour pouvoir recommencer la première année, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, qu'on compte que jusqu'à 49. En fait, il n'y a aucune signification dans le chiffre 49, parce qu'on compte que jusqu'à 7, et on reprend tout le temps de cette manière-là. Donc, à cause de ça, le Rambam, il va nous dire la Massorette, quand est-ce que c'est l'année de la Shemitah de son temps, et en fonction de la date qu'il nous donne de son temps, on peut faire le calcul jusqu'à aujourd'hui. Comme on le sait, cette année, c'est une année de Shemitah. En fait, c'est une Massorette qu'on a gardée depuis ce moment-là, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très fixe. C'est quelque chose qui peut changer en fonction du calcul des périodes où il y avait le Yovel, comme on a expliqué. Qu'est-ce que c'est exactement la mitzvah du Yovel? Donc, il y a la mitzvah du décompte, qui était une mitzvah qui était faite par le Bedin. Mis à part ça, il y aura une mitzvah de sonner du shofar. Toutes les halakhot qu'on connaît de sonner du shofar pendant Rosh Hashanah, il y aura ces halakhot pendant le Yovel. On le fera par contre pendant Yom Kippour, la 50e année. Au début de la 50e année, le Beit Din en premier vont sonner du shofar. On aura besoin d'avoir un shofar qui est kasher pour Rosh Hashanah. Ils vont faire les sonneries et mis à part ça, il y a ici par contre une mitzvah pour chacun des ministres d'écouter le son du shofar comme on va le faire en Rosh Hashanah. Et on le fera par contre à Yom Kippour. Une troisième mitzvah qu'on rencontre sur le Yovel, c'est de sanctifier l'année du Yovel. Ça sera comme une année de Shemitah. On ne va pas toucher la terre, on ne va pas labourer, on ne va pas semer, on ne va rien faire. Et une quatrième mitzvah qui concerne le Yovel, c'est une mitzvah intéressante qu'on appelle qu'on va faire revenir les serviteurs et on va faire revenir tous les champs. Qu'est-ce que c'est cette mitzvah? On sait que Yoshua Binoun, quand il a fait hériter la terre au Bnei Israël, il a donné à chaque famille, chaque chevet, et dans chaque chevet, il y avait chaque famille qui ont reçu un héritage en Eretz Israël. Et cet héritage, il reste pour cette famille pour toujours. C'est un héritage qui sera tout le temps, appartiendrait tout le temps à cette famille. Et même si ils ont eu des difficultés, ils ont besoin de vendre leurs champs, eh bien, à la 50e année, l'année du Yovel, tout le compte, tous les héritages vont revenir, tout, en fait, va se remettre à zéro, on revient à la case départ, chaque famille reprend son héritage qu'ils avaient du temps de Yoshua Binoun, et tout revient à zéro. Ça, c'est la mitzvah spéciale de Yovel, c'est pour ça que la Torah dira que quand on vend un champ, si c'est un champ d'héritage, alors on calculera le prix du champ en fonction des années qui restent jusqu'au Yovel, parce que si maintenant, il nous reste 3 ans jusqu'au Yovel, en fait, il est en train de lui vendre des récoltes. Il ne vend pas le champ lui-même, pratiquement. Donc, le champ n'aura pas du tout le même prix que dans un cas où je vends mon champ d'héritage alors qu'il reste 45 ans jusqu'au Yovel. Donc, c'est une mitzvah spéciale qui concerne les terrains d'héritage et les serviteurs. On sait que les serviteurs aussi, ils vont tous revenir. Normalement, ils ont 7 ans de serviteurs juifs. Ils ont 7 ans de travail. Pardon, 6 ans de travail, la 7e année, ils vont partir. Ça ressemble à la Shemitah. Et mis à part ça, s'ils voulaient rester, alors il y a un processus à lui faire qui va le faire rester à tout jamais, comme dira la Torah, mais en fait, à tout jamais, veut dire jusqu'au Yovel. Et au Yovel, il devra revenir à la maison. Mis à part ça, on verra dans le Rambam qu'il y a plusieurs midot qui sont dépendantes du Yovel. On peut se poser la question. Il y a pas mal de parachutes dans la Torah qu'on voit qu'ils ne concernent pas aujourd'hui. Et la question est pourquoi? Parce que c'est des mitzvot qui dépendent du Yovel, comme par exemple justement la mitzvah du Eved Ivri, qui travaille 6 ans et qui revient à la maison. La mitzvah de Batei Arichoma, c'est une maison que je vis dans une ville qui est entourée de murailles du temps de Yeshua Binoun. Donc on va dire par exemple à Yerushalayim, si je vends une maison dans cette ville, j'ai une possibilité de la récupérer au courant de l'année de la vente, en vendant à l'acheteur, je vais lui rendre l'argent, et récupérer ma maison. C'est une mitzvah spéciale qu'on ne retrouve pas aujourd'hui parce qu'elle est dépendante aussi du Yovel. Il y a la mitzvah de Gertoshav aussi. C'est quelqu'un qui fait une déroute partielle pour qu'il puisse habiter en Israël, mais en fait, il continue à faire d'Averot, il prend juste sur lui de ne pas faire Avodah Zarah, et quand même, on l'accepte. Ça, c'est une Géroute qui n'existe plus du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est noir et blanc, c'est où il fait une Géroute complète, où il reste Goy. Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est justement cette mitzvah de Yovel. Alors, on va donner deux explications. Une d'après le Chinuch. Le Sefer Chinuch, on sait que dans chaque mitzvah, il essaye d'expliquer. Et l'explication qu'il donne à propos du Yovel, c'est pour nous imprégner de l'idée, pour qu'on comprenne bien que tout appartient à Hachem, tout lui revient. Et donc, quand on va comprendre que même les champs que j'ai, même si je le vends, je n'ai pas à perdre espoir parce qu'il va revenir chez moi. Et même si j'achète un champ, alors finalement je devrais le rendre, je vais bien comprendre qu'en fait rien ne m'appartient. Il y a pas mal de mitzvot qu'on retrouve cette idée-là. On fait revenir Hachem, les bikurim, les meilleurs de nos, les premiers-nés de mon troupeau, etc. On va faire donner à Hachem pour qu'on comprenne bien qu'il n'y a rien qui nous revient, tout est un cadeau de Hachem, et donc on va lui donner cette chose-là. Aussi, à propos du Yovel, ça nous fait bien comprendre cette idée-là. Et il va nous dire, le Chinuch, mis à part ça, qu'il y a un grand secret, un grand sod dans le Yovel. Il ne nous explique pas qu'est-ce que c'est le sod, mais il nous fait quand même remarquer quelque chose d'intéressant. Quand on retrouve le chiffre 7, le numéro 7, on le retrouve beaucoup de fois dans la Torah. On peut remarquer que les fêtes de Pessah, de Sukkot, c'est des fêtes qui durent 7 jours. Mis à part ça, il y a les 7 jours de la semaine. On travaille 6 jours. Le 7e jour, c'est un jour kadosh, c'est le Shabbat. Ou bien Sfirat HaOmer. On compte 7 semaines. Et après, on arrive à Shavuot. Ou bien on compte 7 ans, on retrouve la Shemitah. La 7e année, on compte 6 ans, on retrouve la Shemitah. La 7e année, c'est la Shemitah. Et aussi, on compte 7 Shemitot pour arriver au Yovel. C'est quelque chose d'intéressant qu'on retrouve. Mais voilà, comme il a dit, c'est un sod qui nous reste. Mis à part ça, je suis intéressé de vous faire partir de faire entendre un très beau chiour que j'ai entendu une fois, il y a plusieurs années, justement pour expliquer cette histoire des Yovel. Quelle est la logique, en fait, dans cette histoire-là, que les champs reviennent au bout de 50 ans? Pourquoi on fait tout revenir en arrière? Et on explique de cette manière-là, je pense que c'était au nom du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, mais quoi qu'il en soit, c'est son genre. On peut remarquer dans le monde, il y a plusieurs modèles économiques. Comment organiser? J'ouvre un pays, j'ouvre un État. Je veux essayer de donner un modèle économique. Comment est-ce que cet État va fonctionner? Et les deux extrêmes, c'est le capitalisme et le communisme. Dans le capitalisme, chacun, il essaie de s'organiser et de faire son argent. Et ici, il est riche, il est riche. S'il est pauvre, il est pauvre en fonction de son travail et de ses capacités. Dans le communisme, il disait que non, il n'y a aucune logique, qu'il y a des tellement grandes différences de niveau de vie. Moi, j'habite dans un palais. Et en bas de ma maison, il y en a un SDF qui habite sur le trottoir et qui n'a aucun moyen de se relever de sa situation. Et d'ailleurs, son fils, son petit-fils, tout le temps, ils ont toutes les chances de rester comme ça parce que ils n'ont pas de quoi commencer. Ils n'ont aucun espoir. Et donc, le communisme, ils ont dit, on va tous travailler pour tout le monde et tout le monde est exactement égal, tout le monde a le même argent, etc. Maintenant, dans chaque modèle, il y a un avantage et un inconvénient. Dans le communisme, on sait tous pourquoi le communisme il n'a pas tenu, parce que les gens ils se sont dit qu'il n'y a aucune raison de travailler. Ils ont perdu complètement toute leur motivation de travailler, parce que si de toute façon, à la fin du mois, je peux travailler beaucoup ou un petit peu, je vais recevoir la même chose, donc je n'ai pas de raison de travailler pour les autres. Et donc les gens ils se sont arrêtés de travailler, donc ça ne marchait plus du tout. Et d'un autre côté, ils avaient une bonne idée. En tant qu'idée, c'est une bonne idée d'essayer d'égaliser au maximum les gens, qu'il n'y ait pas des trop grandes différences de niveau de vie. D'un autre côté, le capitalisme, il a un avantage que chacun, il a vraiment une grande motivation de vouloir travailler. Mais d'un autre côté, il y a le problème de différence. Et comme on peut remarquer dans la Torah, la Vil, il y a tout le temps un grand... Il y a tout le temps un équilibre dans toutes les choses de la vie. On peut remarquer que la Torah, il y a tout le temps un équilibre de gagner dans tous les sens. En fait, c'est ça ce qu'on retrouve dans la mitzvah du Yovel. Dans la mitzvah du Yovel, d'un côté, j'ai un héritage et donc j'ai de quoi commencer à travailler. Mais c'est pas pour autant. C'est pas parce que mon grand-père, il a eu des difficultés et il a eu besoin de vendre son champ que c'est fini maintenant. C'est la mort pour toutes les générations, tout le temps. il n'y a aucun moyen de sortir de cette situation. Si mon grand-père maintenant il est devenu pauvre, alors il a toutes les chances que mon père sera pauvre et que moi je serai pauvre, que mon fils sera pauvre à tout jamais, et qu'il n'y a aucune occasion, aucune possibilité à la personne de revenir et d'essayer de s'aider. Donc d'un côté, on donne la motivation aux gens de travailler, on leur donne pendant 50 ans, tu peux acheter, tu peux vendre, tu peux faire du commerce, tu peux gagner, tu peux perdre, tu peux tout organiser, essayer de travailler. Mais d'un autre côté, au bout de 50 ans, on revient à la case départ. Tout le monde revient à la case départ, chacun reprend son champ et on lui redonne une occasion de recommencer sa vie et de monter soi-même sur les rails, de ne pas tomber sur la caisse publique et d'essayer lui-même de se réorganiser. Et comme ça, on gagne dans tous les sens. C'est au fait, ça fait un petit peu la même idée qu'on retrouve dans le Maaser Ani. On sait que dans le cycle des 7 ans de la Shemitah, alors il y a des différents Maaserot. Il y a le Maaser qu'on donnera tout le temps au Kohen et au Lévi. Mis à part ça, le Maaser Ani, on ne donnera que la 3e et la 6e année. Les 4 autres années, c'est du Maaser Sheni. Maaser Sheni qu'on monte à Yerushalayim, qu'on le mange à Yerushalayim. Et là, on peut essayer de comprendre pourquoi, en fait, on donne aux pauvres que la 3e et la 6e année et le reste des années, ils ont pas besoin à manger et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mourir de faim. Et la réponse, elle est, c'est exactement la même chose. D'un côté, on veut pas que le pauvre, il prenne l'habitude de vivre complètement sur la tzedaka. Parce qu'après, il n'aura aucune motivation de vouloir travailler, de vouloir se redresser. Et donc, d'un autre côté, on essaye de l'aider. Donc, de cette manière-là, quand il va savoir que même s'il a fait faillite, il a quand même un espoir, l'année prochaine, il sait qu'il aura un statut de pauvre, on pourra l'aider, il pourra commencer à économiser, et puis en sachant que l'année d'après, il ne pourra plus recevoir le Maaser Ani, alors il va s'ouvrir son propre travail, il va essayer de s'organiser, et de cette manière-là, on gagne dans tous les sens. On aide les pauvres, et quand même, c'est pas qu'on les aide et qu'on les laisse tout le temps à tomber sur la caisse publique, on les aide à se redresser complètement et à se tenir à soi-même. Donc c'est la même idée qu'on retrouve dans le Yovel. Et c'est une très belle idée, elle m'a beaucoup plu. Mais quoi qu'il en soit, de manière générale, on n'essaie pas de donner forcément des raisons aux mitzvot. Les mitzvot de la Torah, elles sont beaucoup plus profondes que ce qu'on croit, mais quand même, de temps en temps, on peut essayer de donner une certaine logique pour approcher les mitzvot à notre cœur.